France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir de Philippe Torreton. Le comédien incarne Galilée dans la pièce de Bertolt Brecht, La vie de Galilée, mise en scène par Claudia Stavisky. Une pièce produite par le Théâtre des Célestins de Lyon, en tournée jusqu'à fin janvier pour l'instant. Une pièce qui, quatre siècles après Galilée, nous fait réfléchir à ce que représente la vérité scientifique face à ceux qui la refusent au nom d'une religion ou simplement de leur croyance personnelle. On en parlera évidemment avec notre invité, alors que la question climatique est en train de s'imposer comme la question numéro un désormais, avant même les priorités sociales et politiques. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marion Lelay, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec notamment ici en France, la question migratoire mise tout en haut de la liste par l'exécutif. On parlera aussi de la prise de parole d'Adèle Haenel, une première pour le cinéma français, 2 ans après MeToo aux États-Unis. Puis on parlera du parcours de notre invité, comédien, acteur, metteur en scène, écrivain, car Philippe Torreton est un artiste tout-terrain, ou presque, désormais. Juste avant 19h, des bonnes ondes signées ce soir Sébastien Sabiron. Nous irons dans le 12e arrondissement de Paris où un bar tente de créer du lien pour ceux que la ville a rendus anonymes. C'est le Social Bar, il y en aura bientôt dans une vingtaine d'agglomérations. À 19h20, au téléphone sonne à l'occasion du salon Made in France. Cette question, peut-on consommer français sans se ruiner? On sera avec Arnaud Montebourg qui a créé le label Bleu Blanc Ruche, avec Guillaume Gibaud du Slip Français et avec Alain Bazot, le patron de l'UFC Que Choisir. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Philippe Torreton.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, merci d'être avec nous jusqu'à 19h alors que vous étiez hier soir encore sur la scène du Théâtre de la Crie à Marseille. Que vous serez lundi à Châteauroux, et puis après à Lyon, jusqu'à début décembre. Vous incarnez l'astronome et mathématicien Galilée dans la pièce de Brecht, La vie de Galilée, une pièce qui a été écrite il y a 80 ans, une pièce dont l'histoire se déroule il y a 400 ans en Italie, et pourtant, elle nous paraît complètement contemporaine. Pourquoi ?
Elle l'a toujours été. De toute façon, Brecht était un auteur ancré dans son époque et dans le devenir de l'humanité. Donc forcément, chaque œuvre de Brecht peut témoigner en tout cas d'une actualité. En revanche, celle-ci porte quelque chose en elle d'absolument prédictif et qui fait même un peu peur. Et les spectateurs nous renvoient ça constamment. Et c'est très étrange parce que moi j'avais joué dans cette pièce, dans une mise en scène d'Antoine Vitez à la Comédie Française. Il m'avait demandé de jouer le petit moine. Et il y a 30 ans, l'aspect...
Ça résonnait pas de la même façon.
Ça résonnait pas de la même façon. On était plus dans l'histoire. On était plus dans l'histoire récente. La Seconde Guerre mondiale, les montées du fascisme en Europe, etc. Et là, maintenant, c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire que les gens, sans qu'on ait de signes, le seul signe qu'on a à un moment donné, c'est qu'il y a une vidéo d'un glacier qui s'écroule, etc., quand le pape est couronné, voilà. Mais à part ça, les gens voient en Galilée le représentant de tous les scientifiques en ce moment qui nous alertent, 11 000 là, il y a quelques temps, encore plus que ça là, il y a quelques mois encore, qui n'arrêtent pas de nous dire que ça va plus vite que prévu, que il faut prendre des mesures absolument radicales et maintenant.
C'est l'impuissance de Galilée qui tente de faire admettre à ses concitoyens cette vérité scientifique que l'Église refuse et que alors, du coup ses concitoyens refusent.
Alors c'est pas ses concitoyens ne refusaient pas, c'est le pouvoir politique et là à l'époque c'était le pouvoir religieux qui ne voulait pas que l'ordre établi soit comme ça bouleversé par des découvertes scientifiques parce que remettre en cause la fixité de la Terre et le fait que tout tourne autour d'elle. Donc le système ptoléméen, c'était remettre en cause le pouvoir de l'Église, même si c'était pas l'intention de Galilée d'ailleurs. Galilée qui était croyant, et c'est là le paradoxe. Il dit mais moi je sais pas où le mettre, mais en tout cas pas là-haut comme il dit dans la pièce, pas plus là-haut qu'on ne le trouverait sur la Terre si là-haut existait des êtres et qu'il le cherche ici. Et dit mais
remette en cause ses observations tout simplement quoi.
Oui. Et donc il se heurte à ce dogme religieux. Parce que ce dogme religieux est un dogme fait politique et d'une domination d'une classe sur une autre, etc. C'est pour ça que, à mon avis, Brecht s'est emparé du sujet aussi. Et lui qui était attiré par cette vision-là, enfin de cette lutte-là. pour l'émancipation des peuples. Et Galilée en est un des symboles, parce que c'est un des premiers qui a voulu écrire dans la langue de tous les jours et non pas en latin, le fait d'écrire en latin excluait une grande partie de la population, si c'était l'extrême majorité d'ailleurs. Et donc lui, il voulait publier en italien pour que les gens soient à même de comprendre le monde dans lequel ils sont. Il y avait une entreprise pédagogique.
Alors on va voir comment il explique.
Donc, ceci est la terre, et là, c'est toi, debout. Maintenant, la terre tourne.
Et maintenant, je prends la tête en bas.
Ben pourquoi ? Regarde bien. Où est la tête ?
Mais là, en bas.
Quoi ? Elle n'est peut-être pas au même endroit. Est-ce que tes pieds ne sont plus en bas ? Quand je tourne, tu te tiens peut-être comme ça.
Non. Mais pourquoi je ne m'aperçois pas qu'elle tourne ?
Mais parce que tu tournes avec elle, toi et l'air autour de toi, et tout ce qui est sur la boule.
Et pourquoi alors le soleil a l'air de bouger ?
Oh ! On est désolé, on a coupé, il va falloir aller voir la pièce hein, pour savoir la suite, Philippe Torreton. Alors cette pièce, elle est très intéressante parce que elle parle de la difficulté de faire admettre la vérité scientifique, mais ce qu'elle souligne aussi, c'est à quel point la recherche demande des moyens.
Oui.
Parce que Galilée, il cherche de quoi poursuivre ses recherches.
Et d'ailleurs, à cette occasion, comme mon frère aîné est scientifique à l'IRD, et j'avais invité pas mal de gens de l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, de venir assister à une représentation, et on a fait un débat après. Et je dois dire que cette scène-là où il réclame les 500 écus à Priouli, son recteur d'université, ça fait bien réagir dans la salle. Et parce qu'on en est toujours là, finalement. Les scientifiques, aujourd'hui, passent leur temps à essayer d'obtenir des budgets pour
c'est le nerf de la guerre, hein, comme
avant. Ah, mais ouais. Ça leur phagocyte tout une énergie folle, folle. Et l'ANR, qui est chargée de subventionner les projets scientifiques, c'est une grosse machine à dire non. Presque 70 ou 80% des projets sont retoqués. Donc on en est toujours là. Oui.
On en est toujours là. N'empêche que sur la vérité scientifique, et puis surtout cette urgence climatique, on sent une prise de conscience quand même aujourd'hui.
Oui, absolument.
Philippe Torreton.
Oui, il y en a une.
L'année 2019, elle aura marqué un tournant, on peut
absolument,
le dire quand même.
Que ce soit dans les médias ou dans les sondages d'opinion, on voit que il y a un vrai tournant. Mais moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que plus les effets se feront ressentir. On sera bien obligé de prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Là, on a vécu une sécheresse démente, des inondations. Les pays comme la France, les pays dits de tempérés comme ça dans cette zone-là, on est relativement protégés. Mais ça commence à venir. Là, on voit bien que le trait de côte diminue et ça va aller en s'accélérant. On prévoit quand même, je lisais ça il y a pas longtemps, 350 000 déplacés, de citoyens français déplacés, d'ici à 2050. 350 000 personnes qui vont devoir quitter leur habitation pour aller à l'intérieur des terres ou sur des zones un peu plus élevées. Donc, nos premiers réfugiés climatiques seront français, seront néerlandais, seront camarguais. Si tant est que les camarguais, c'est de français, voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça va devenir très, très concret, très vite, comme le soulignaient les 11 000 scientifiques qui nous disaient que la réalité du réchauffement bat les prévisions les modélisations en tout cas les plus pessimistes.
Voilà, Galilée plus actuel que jamais. Vous nous l'avez dit, vous aviez déjà joué dans cette pièce il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, vous jouez le rôle principal, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et votre fille aînée vous donne la réplique. Oui. Elle joue votre fille. C'est Marie. Quoi, c'est un passage de témoin, ça?
Totalement involontaire de ma part, c'est Claudia Stavisky qui est allée voir un spectacle dans lequel elle jouait et qui m'a dit, écoute, je suis en train de rechercher une fille pour jouer ta fille, Virginia, dans la pièce, et je la trouve très très bien, donc est-ce que toi, ça te pose un problème? Je dis, moi non, j'en serais très heureux, demande-lui, et puis elle a accepté tout de suite, donc je suis très content que ça se soit passé comme ça, sans intervention paternelle.
Voilà. Un petit mot de la mise en scène justement de Claudia Stavisky, 2h45 sans entracte, et puis pourtant on voit pas le temps passer. Alors il y a une curiosité dans cette mise en scène, c'est qu'en fait c'est vous qui entrez sur scène avant même le public.
Oui.
Vous êtes là.
Oui.
Parfois on s'en rend même pas compte. Enfin, au bout d'un moment,
les gens s'en rendent compte au bout d'un moment.
Qu'il y a quelqu'un. Vous êtes sur une table, en fait, c'est comme si...
Voilà, je suis attablé,
la
table de travail.
Posé sur la table, quand même.
Et il dort. Et je voulais montrer par là que cet homme passe son temps à travailler. Parce que, tout simplement, c'est pas une idée qui m'est venue comme ça, c'est ce qu'il dit à Andrea, le jeune garçon de sa gouvernante, à qui il apprend plein de choses, et il lui dit que c'est pour ça, pour que tu comprennes que je travaille et que j'achète ces livres coûteux au lieu de payer le laitier. Donc, ils sont endettés, ils manquent d'argent, parce que les fournisseurs, comme le laitier, commencent à rouspéter. Ils ont les huissiers qui viennent régulièrement. Et il dit qu'il travaille constamment. Donc je me disais, bah voilà, prenons... et j'accueille le public en dormant, en ronflant sur ma table. Et on va voir que finalement, cet homme-là enchaîne une nuit de travail avec une journée de travail. Et il a que quelques minutes pour faire sa toilette. Et puis je voulais aussi montrer que cette nuit a été une nuit particulière. C'est la nuit où il a la conviction que Copernic avait raison. Il n'en a pas la preuve, mais il en est intimement convaincu. C'est pour ça que ça commence tout de suite avec Andrea, il va tout de suite lui parler de ça. Et du coup, je me dis que il a dû cogiter toute la nuit. Donc il a dû terminer sur un coin de table, à dormir, et il se fait réveiller. Il a besoin de se mettre la tête dans la bassine, et à la fin, on verra que cette bassine, elle est sous la table. Il termine en mettant ses pieds dans la bassine. Et je trouvais cette idée assez jolie.
Vous l'aimez bien, ce personnage de Galilée ?
Je l'adore.
Il faut aimer un personnage pour l'incarner correctement ?
Non,
on n'est pas obligé.
Non, on n'est pas obligé.
Mais celui-là, vous l'aimez bien ?
J'ai joué Richard III, je peux pas dire que je trouvais ce garçon sympathique. Mais quand on est... C'est pas une question de fait d'aimer ou pas, c'est une question d'être séduit par ce qui se dit. Et c'est ça qui m'importe, en fait. Dans toutes ces contradictions, moi j'aime tout jouer d'un personnage, y compris ce qu'il a de moins sympathique. Et par moments, Galilée n'est pas sympathique. Il n'est pas sympathique avec sa fille. Il est très élitiste. Quand il dit, tu sais bien que je hais les gens. Non, je méprise les gens dont le cerveau n'est pas capable de remplir l'estomac. C'est une phrase qui a des côtés insupportables. C'est pas quand il dit, j'ai tendance à penser qu'en notre qualité d'homme de science, nous n'avons pas à nous demander où peut nous mener la vérité. On a envie de lui dire, bah si, un petit peu quand même. Faut faire gaffe.
Et donc vous faites bien ressortir toutes ces ambiguïtés, en tout cas. C'est une évidence et les critiques sont dithyrambiques.
Mais c'est très agréable. Et c'est la moindre des choses, je trouve, pour le public de tout jouer, de pas jouer ce qui nous arrange, de tout jouer.
Et on reparlera évidemment de ce que ça représente de jouer un personnage. Mais on va passer, Philippe Torreton, comme tous les vendredis, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hila cette semaine, qui aura été marqué par l'anniversaire d'une catastrophe à Marseille, par un cirque incendie en banlieue parisienne, et par l'immigration encore et toujours à la une de l'agenda politique.
Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Que lorsque nous disons oui, ce soit vraiment oui. Et que lorsque nous disons non, ce soit vraiment non.
Tu veux, tu veux pas.
Oui et non. En bon normand qui se respecte, Édouard Philippe annonce la couleur du pain béni pour Marine Le Pen.
Macron, il a pris le pire de la droite et le pire de la gauche.
C'est comme ci ou comme ça. Où tu veux ou tu veux pas.
De temps en temps, il fera du Sarkozy. De temps en temps, il fera du Hollande.
Quoi ?
Ça dépendra des jours.
Ah, tu dis oui ?
Nous avons décidé d'aller loin dans l'ouverture, là où nous pensons que c'est bon pour la France.
Eh bien, moi, je veux plus.
Et cette ouverture annoncée, ce sont des quotas pour les métiers en tension.
Nous avons décidé d'aller loin dans le contrôle, là où nous pensons que les abus ne sont plus tolérables.
Ouh là là !
Le gouvernement annonce en effet un délai de carence pour l'aide médicale d'État. La carotte et le bâton, autant dire la certitude de se faire des ennemis dans tous les camps. À droite, le député Éric Ciotti voudrait pourtant y croire.
On s'aperçoit qu'une nouvelle fois, on est dans une forme d'illusion de communication.
À gauche, pour le socialiste Boris Vallaud, tout cela fait un peu retour vers le futur.
Beaucoup de gens doivent avoir l'impression d'avoir voté pour un second mandat Sarkozy.
Et même dans la majorité, ça grince. Le député En Marche, Jean-François Cesarini.
On essaie de donner des gages à un électorat, on se renie sur les valeurs, et en plus ça n'aura aucune utilité électorale.
Alors Emmanuel Macron fait cette mise au point depuis la Chine.
J'ai fixé un cap, le gouvernement l'applique. Le rôle du président de la République, c'est pas de commenter les commentaires ou les états d'âme. C'est d'être le chef de l'État.
À Marseille, drapeau en berne cette semaine, un an tout juste après le drame de la rue d'Aubagne qui avait fait 8 morts. Des centaines de personnes attendent toujours d'être relogées.
Personne n'a démissionné, alors que parmi les personnes qui sont aux décisions, il y a des propriétaires de Tony qui louent encore. Il faut que tout ça passe en justice et vite.
Des violences à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines le week-end dernier. Il y a eu des affrontements entre des jeunes et les policiers. Un cirque a été incendié. Certains sont même allés jusqu'à justifier ce qui s'était passé.
La maire Vauquez-Bouche, elle touche des subventions grâce à ces jeunes-là, défavorisés,
Aujourd'hui, ils ont cramé le chapiteau. Peut-être que demain, ils vont cramer la mairie.
Non mais on rêve, là.
La maire de la ville, Catherine Arnoux.
C'est bien évidemment lorsqu'on détruit un bâtiment culturel, un bâtiment de liberté, que brusquement, l'emploi va revenir sur le territoire.
Et pendant ce temps, les rémunérations des patrons du CAC 40 s'envolent. 12% de plus en 2018, nouveau record depuis la crise de 2008.
Un patron du CAC 40 gagne en moyenne 90 fois plus qu'un de ses salariés.
Jeanne Leroy du cabinet Proxinvest.
Là, il y a un vrai problème et il y a des dérapages qu'il va falloir contrôler de façon plus ferme.
La belle histoire de la semaine pour terminer, quand des habitants lancent une cagnotte pour permettre à leur mère de sortir de prison. Ça se passe à Levallois-Perret où les époux Balkany disent ne plus avoir un rond.
Des habitants de Levallois, spontanément, avaient lancé des cagnottes litchi dans tous les sens.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien.
Et je leur ai demandé d'arrêter car j'ai eu peur qui se fasse gruger par des gens qu'on ne connaît pas.
C'est vrai qu'en matière d'arnaque, on est à l'abri de rien.
On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Et encore merci à Céline Hila. Une semaine en France, toujours en compagnie de Philippe Toretton, comédien, acteur, écrivain, citoyen engagé de ce pays. Bah si, si, si. Mmh. Philippe Toretton, est-ce que vous avez un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre ou sur un autre sujet de l'actualité de la semaine qui vous aurait particulièrement marqué?
C'est un commentaire, oui, j'en ai un, bien que je ne fais plus de commentaires politiques. Mais là, il y en a un qui touche la cause de l'immigration. Qu'on entendait au début de ce montage, et ce qui me frappe, c'est que quelle que soit la politique migratoire à appliquer dans ce pays, et je me risquerai pas à dire celle qu'il faut, on a un devoir de dignité par rapport à ceux qui sont là, et quand on est sur le périphérique avec ses enfants à l'arrière de la voiture et qu'il voit tous ces gens qui vivent sur ces petits bouts de pelouse là, ces intersections, c'est inadmissible et on se sent mal à l'aise quand votre petit garçon, votre petite fille vous dit mais pourquoi ils sont là les gens, qu'est-ce qui c'est, et on se dit mais c'est pas possible quoi, c'est insupportable. Et de voir cette misère là, ces gens dans une précarité épouvantable, et je trouve qu'on a un devoir d'accueillir correctement, humainement, même temporairement, mais en attendant que quelque chose se classe ou se mais on ne peut pas laisser.
Pourquoi ce discours est devenu inaudible?
Parce que je crois que les hommes politiques sont très à l'affût de ils sont tous sous des impératifs d'élection, on a peur du Front National, alors du coup on veut montrer qu'on prend à bras le corps le sujet, mais on a peur aussi de décevoir ses électeurs. Enfin, il y a plein de choses. Chaque mesure, c'est comme il y a quelque temps, à chaque fois qu'on parle d'améliorer le sort des prisonniers, c'est pas très sexy au niveau électoraliste de faire ça. Et il y a toujours des Français pour dire bah attends, s'ils sont en prison, c'est qu'ils l'ont mérité. On n'a pas le mythe de la prison 3 étoiles, etc. Je conseille à tout le monde d'aller en prison et de voir ce que c'est. Moi, j'y suis allé pour les besoins d'un tournage et c'est absolument épouvantable. Même une prison correcte, c'est épouvantable. Et l'immigration, c'est pareil. Voilà, ça obéit aux mêmes, ces mêmes tiraillements électoralistes. Et puis,
ce sont des questions politiques, Philippe Toretton. Vous dites que vous ne voulez plus faire de commentaires politiques, mais
ce sont des questions politiques. Mais j'ai envie de dire, ce sont des questions humaines d'abord. D'abord et avant tout, on ne laisse pas quelqu'un sur une bretelle d'autoroute ou du périph. On laisse pas quelqu'un. On se démerde. On construit des trucs. Après tout, il y a des Algeco, des machins. On a même été capable de faire des chambres pour les étudiants dans une université, dans des conteneurs aménagés spécialement, etc.
En Normandie, c'est vers chez vous. Ça.
Oui, c'est ça. Ouais. On peut pas faire la même chose. On peut pas. Mais toujours pareil, c'est que en discutant avec certains hommes politiques responsables qui sont choqués comme moi par cette situation là. On dit mais les aider au logement, c'est tout d'un coup se mettre dans l'illégalité, puisque certaines personnes sont là illégalement. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait pas définir se dire que quelle que soit la façon dont la personne est venue là, si elle est là, en attendant qu'on statue sur son sort, on se doit de l'héberger. Voilà. Parce que sinon, on génère de la misère, on génère du commerce parallèle, on génère des maladies qui se propagent quand il y a des problèmes de santé, et donc, etc., etc. Et puis surtout, on génère de la honte. De la honte. C'est honteux que des milliers de jeunes qui ont traversé des pays en guerre, qui ont subi les pires sévices pour certains, les plus grands dangers, et se retrouvent là, sur un petit bout d'autoroute, avec une palette et une toile de tente. C'est inadmissible, c'est honteux.
Philippe Torreton, il y a un autre fait marquant cette semaine, c'est la prise de parole de l'actrice Adèle Haenel. Ouais. Elle a mis publiquement en cause le réalisateur Christophe Foggia, avec lequel elle avait tourné quand elle était très jeune, quand elle était adolescente, Les Diables. Elle a affirmé dans une très longue interview à Mediapart avoir été victime d'attouchement de sa part alors qu'elle était adolescente. Elle a expliqué pourquoi elle avait décidé de parler, on va l'écouter.
En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire, en fait, si vous voulez. C'est pour leur parler à elles et à eux, en fait. Pour dire que ils sont pas tout seuls, quoi. Mon but, c'est vraiment la libération de la parole. Il s'agit pas de lynchage, en fait. Hein. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive?
Voilà, Christophe Foggia, lui, il a démenti les accusations d'Adèle Haenel, mais il s'est excusé malgré tout. J'aimerais bien savoir comment vous réagissez en entendant ça, parce que c'est vrai qu'on a peu entendu ce genre de propos depuis 2 ans ici en France.
Mais je la trouve non seulement d'un grand courage, mais d'une grande intelligence. Moi, j'ai écouté son interview par Edouard Plenel là sur
Mediapart,
et je trouve ses propos extrêmement mesurés, pesés, et on sent que ça lui coûte parfois de dire certaines phrases, etc. Je trouve que oui, c'est d'une grande intelligence, parce que elle peut sauver la vie en ce moment à des tas d'autres filles, parce que c'est voilà, dans l'immense majorité sont des filles, très peu de cas de garçons, même s'il y en a, il faut pas oublier les garçons, mais dans l'immense majorité ce sont des garçons, et qui ne peuvent pas témoigner, qui n'osent pas, et en faisant voilà, toute personne qui témoigne, toute personne qui écrit ce qui lui est arrivé, aide les autres. Voilà, de façon parfois sans le savoir, sans le, il y aura pas forcément un retour, j'en suis sûr de ça, pour le vivre de très près, et c'est, ça aide tout témoignage aide des gens à le faire ou à passer un cap, en tout cas, dans la prise de parole et la dénonciation de ces faits et gestes qui sont inadmissibles.
Et la réalisatrice Toni Marshall était invitée du journal de 13h aujourd'hui sur France Inter. Elle regrettait que les hommes ne prennent pas plus la parole.
Mais c'est à la raison.
À la raison.
À la raison, oui. Oui, ça concerne les hommes. Et je pense que il faut pas se dire que c'est un problème de femme. En fait, c'est un problème d'être humain, pardon d'être aussi basique que ça, mais voilà, ça nous concerne tous. Et que des gens se comportent comme ça dans ce métier, c'est une honte. Et comme je fais partie de ce métier, eh ben, je trouve ça honteux. Et je pense qu'il y a une omerta dans ce métier, une loi du silence comme ça, parce que ça coûte cher le cinéma, parce qu'on se serre les coudes, parce que c'est un métier d'homme, ça reste un métier d'homme, même s'il y a de plus en plus de femmes, mais on le voit, et on est là, tout le monde craint pour son avenir. Moi, je l'ai vécu en tant que, en prenant la parole sur certains sujets. Je travaille moins dans le cinéma. Tout le monde, les techniciens, si un technicien qui ouvre sa gueule, eh ben, il fera pas de le prochain film. Voilà. Et c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que je trouve vraiment, je trouve qu'Adèle Haenel fait preuve d'un courage formidable. Bon, elle est très soutenue, là. Et comme elle le disait très intelligemment, elle a les moyens de le dire parce qu'elle est, elle travaille, parce qu'elle est, elle se sent un peu protégée maintenant, professionnellement. Mais il faut penser à tous les autres qui ne le sont pas protégés.
Et c'est ce qu'elle a dit. Ouais. On va dans un instant parler de vous, Philippe Torreton, de votre parcours, votre histoire. Le temps d'écouter Vincent Delerme, Vivarda, un titre de son dernier album, Panorama.
Si on peut oublier tout ça, le stadium, Défense, Arena, les charrues, le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. une émotion. Si on peut vivre une vivarda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs, pas le clash, pas les chroniqueurs, quelquefois chercher l'élégance. Si on peut trouver la beauté, un visage par le temps froissé, dans la nuit, un danseur qui danse. Si l'on peut vivre comme la nièce, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vivarda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition.
Vincent Delerme, Vivarda, choix musical, signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
En compagnie ce soir de Philippe Torreton. À ce stade de l'émission, Philippe Torreton, on parle du parcours de l'invité, alors vous n'allez pas y échapper.
D'accord.
Vous avez 54 ans, vous êtes normand, né à Rouen, grandi à Petit-Quevilly et Grand-Quevilly. Pas très loin de l'usine Lubrizol.
Voilà, tout près.
Vous avez raconté ça dans un de vos livres d'ailleurs, ça sentait l'œuf pourri.
Oui, absolument. Hein, tous les week-ends, quand on revenait de chez Mémé, autre de mes livres.
Et, formidable le livre. Hein,
merci. Arrivé à 10 km à peu près de Petit-Quevilly, enfin de Petit-Couronne, Petit-Quevilly, tout ça se tient. Eh bien voilà, ça puait dans la voiture et voilà, c'était mon enfance, c'est ça. Vallée pétrochimique. Qui va du Havre jusqu'à Rouen.
Alors, vous avez grandi avec une maman institutrice, directrice d'école,
oui.
Papa pompiste. Il paraît que quand vous étiez enfant, vous étiez timide et que c'est le théâtre qui vous a fait du bien.
Oui, oui, absolument. Enfin, qui m'a fait du bien, évidemment, mais qui guérit pas de la timidité, mais qui fait qu'on s'échappe de soi, en fait. Finalement, d'abord, la timidité n'est pas un défaut. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Quand on arrive à monter sur un plateau, on se sent de façon instinctive d'abord dans les premiers temps. Puis après, on théorise ça et puis voilà, et on comprend ce qu'on fait sur scène. Mais au début, quand on commence, quand on est jeune, on s'investit comme ça dans un personnage et puis on se déguise et puis et ça permet voilà d'échapper un peu à la dictature de ce qu'on est et ou de ce qu'on croit être ou ne pas être justement comme disait l'autre et puis
vous aimez bien
ah oui
j'inspire hein si vous avez même consacré un bouquin
ah ouais ouais et puis ça voilà ça permet de se dire qu'on a un outil là, qui est son propre corps, son cerveau, sa langue, ses mains, et qu'on peut parler, qu'on peut prendre à bras le corps d'autres écritures, s'apercevoir qu'on n'est pas seul au monde avec certains problèmes. Et moi, c'est ce qui m'a effaré en bien avec Shakespeare. D'un coup, j'avais un grand frère, un autre grand frère. Je me le suis approprié. Voilà,
c'est... Alors, on connaît votre parcours, hein, Philippe Torreton, parcours d'excellence, on peut le dire, hein, franchement, le Conservatoire National de Paris, puis oui. La Comédie Française, vous êtes resté 9 ans
oui.
avant de partir, parce que vous trouviez que ça tournait un peu en rond, c'est ça ?
Non, c'est pas que ça tournait un peu en rond.
Ça manquait d'entrain. C'était devenu un peu triste, c'est ce que vous avez dit.
Ça me rendait triste, en fait. C'est pas la Comédie Française, mais j'avais le sentiment que j'allais être préoccupé par plus des choses en dehors du théâtre. Or, ce qui m'intéressait, c'est ce qui m'intéresse toujours, c'est de faire du théâtre et pas d'être dans des problèmes de coulisses, de cours, de qui fait quoi, qui domine qui. Et voilà, j'avais pas envie de devenir un acteur aigri comme il peut y en avoir parfois dans ces troupes-là où au bout de 20 ans. Voilà, on sent sur les visages qu'il y a un masque un peu comme ça de... Certains y échappent, et tant mieux. Mais moi, j'avais peur de ça. Et je me disais que je voulais préserver, finalement, mon envie première de faire du théâtre.
Quoi. Voilà, et du cinéma, puisque vous aviez commencé et même obtenu un César,
oui.
Déjà, et puis il y a eu un Molière aussi. Mmh. C'est quelque chose de difficile d'être jugé, parce qu'on est jugé dans ce genre de métier.
Oui, alors on s'habitue à ça. Mais comme je l'ai dit souvent à mes enfants, moi, chaque pièce de théâtre, je repasse mon bac. En fait, il y a un peu de ça. C'est le succès du spectacle ou du film décidera d'un autre film ou d'une autre pièce. Alors, c'est pas le couperet n'est pas aussi impératif que ça, mais quand même, ça, voilà, c'est ça compte. Donc oui, c'est pas qu'on remet en jeu, mais enfin voilà, il y a des choses se décident quoi. Il faut que chaque projet soit le gage d'un futur projet et c'est comme ça. Mais je mentirais en disant que je le subis. J'aime ça en fait. J'aime le tout est de faire ce métier pour des bonnes raisons. Ça devient moi quand je monte sur scène, je le fais pas pour plaire à telle critique du Masque et la Plume ou telle non. Je
à
le
qui vous avez beaucoup plu. Hein,
bah là, c'était ouais, un Masque et la Plume que j'ai. je vais me le podcaster et me l'imprimer
vous le repassez en
sur
boucle.
Vinyle.
Est-ce que c'est vrai que vous avez toujours peur? Parce que ça, vous l'aviez écrit dans le bouquin,
ah oui.
Comme si c'était moi, à propos du tract, vous disiez, je n'ai jamais cessé d'avoir peur. Pas une fois, je ne suis entré en scène sans ressentir un pincement. C'est toujours le cas,
ah oui,
même avec
toujours.
L'expérience que vous avez?
Oui, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience. Parce que c'est chaque soir peut contenir des pièges, la trop grande énergie qu'on peut avoir, la fatigue qu'on peut avoir, le théâtre. Surtout quand on est en tournée, quand on joue en continu dans un théâtre, on finit par vraiment s'habituer au lieu et agir en conséquence. Mais en tournée, on change comme ça constamment de théâtre. Ça peut être piégeant, ça peut être déstabilisant. Il peut y avoir plein de petits trucs. La précision vocale, enfin buccale, j'ai envie de dire, ça demande beaucoup de concentration. Le moindre relâchement et puis tout d'un coup, votre langue fourche. C'est pas à vous que je vais dire ça, avec qui travaille à la radio, mais
c'est le direct.
Et donc voilà, il faut faire attention et chaque petit relâchement se paye assez vite et cher.
Quel est le rôle que vous avez préféré interpréter, celui qui vous a rendu le plus heureux en tout cas au théâtre?
Je sais pas s'il y en a un qui peut tout contenir, mais Hamlet, oui, ça m'a transporté vraiment. Mais j'ai envie de dire en ce moment avec Galilée. Je vis un bonheur de comédien. Enfin, je sens bien ce personnage et j'aime bien la troupe, toute la troupe qu'on forme. Ça se passe super bien mais sinon c'est aussi des je peux même dire, mais même dans des personnages délicats comme Richard III. Il y a des moments quand à la toute fin, quand il est là presque agonisant, il dit mais imbécile, je joue ma vie sur un coup de dé. Ah, cette phrase pourtant qui est pas non plus, c'est pas une immense phrase, mais je trouvais ça elle me touchait, cette phrase de ce personnage noir qui tout d'un coup avoue quelque chose comme ça. Dans Henri V, pareil, la tirade avec Lord Scroope est un texte magnifique. La dernière fois que j'ai eu à le dire, j'ai eu une émotion, non pas une émotion de jeu, mais une émotion de me dire c'est la dernière fois que je dis ça. Et ça m'a comme un deuil, on dit au revoir à un texte, à un passage comme ça. Et donc chaque rôle comme ça, Scapin, ça a été aussi une belle aventure. Enfin, plein de
rôles. Il y en a plein. Philippe Torreton, on a une rubrique dans cette émission un petit peu avant 19h. Chaque vendredi, ça s'appelle Les Bonnes Ondes. Ce sont des infos positives. Ce soir, c'est avec Sébastien Sabiron et il va nous faire découvrir le Social Bar. C'est un bar du 12e arrondissement de Paris dont les patrons sont très nombreux, il y a 250 copatrons, il y en aura peut-être plus encore bientôt. Ce bar, il vise à rompre l'isolement auquel on peut être confronté dans une ville comme Paris. Il reverse une partie de ses recettes à des associations et il s'agit avant tout d'y passer du bon temps. La preuve, hier soir, grosse ambiance quand Sébastien s'est rendu sur place.
J'ai une question, est-ce que vous allez bien?
Oui.
On va faire un tournoi très célèbre ici, qui s'appelle le Shifumi Géant.
Entre la gare de Lyon, un supermarché et des immeubles de bureaux, le quartier n'a pas grand-chose de convivial. Et pourtant, dès 20h, le social bar est plein à craquer. À l'entrée, les nouveaux clients sont briefés par le gérant.
Tu as le droit de parler à des gens que tu ne connais pas. C'est autorisé par la loi du bar. Et il y a une première tradition, c'est que tu vas écrire ici ton prénom et tu réponds aux deux questions du jour. Si tu étais un coach, tu serais coach de quoi? Et si tu étais une ponctuation, tu serais laquelle? Une fois que t'as fait ça, tu demandes à quelqu'un que tu connais pas de te le scotcher dans le dos.
Ah mais du coup c'est la mission, faut trouver du scotch.
Ah bah, c'est ton problème.
Je vais te chercher du scotch.
Emeline se prête au jeu, première soirée au Social Bar pour cette jeune parisienne.
Je suis venue toute seule pour retrouver un groupe. On se connaît pas encore, mais on va se retrouver en groupe ce soir. J'ai déjà des potes à Paris, mais on est tous un peu dans le même domaine et du coup ça me ferait plaisir de voir plein de personnes différentes, de milieux différents.
Si la plupart viennent en groupe, 15% de la clientèle vient seule, à l'image d'Alexandre qui passe boire un verre après le travail.
Ici, en fait, c'est l'un des rares endroits à Paris où on peut rencontrer vraiment tout le monde, parler avec n'importe qui. Voilà. Ça devrait être normal, mais malheureusement, c'est finalement super rare à Paris.
Pourquoi c'est pas possible ailleurs?
Parce que les gens, en fait, ont peur. Je pense que voilà, les gens sont craintifs des autres. Ils sont plutôt en cercle fermé, amical. Pénétrer les cercles amicaux, c'est compliqué, voilà, en tout cas dans les autres bars.
C'est quoi le défi, là?
Présenter un ami à une inconnue.
C'est facile.
Très facile. Ouais.
Des défis pour rythmer la soirée et briser la glace. Faire un câlin, une tresse, un compliment à des inconnus. La recette du succès selon Christophe, habitué des lieux depuis l'ouverture.
Moi j'ai vu il y a 3 jours une jeune femme venir seule. Après s'être fait plaquer durant le week-end de la Toussaint. Elle est venue solo, elle est repartie, elle connaissait 15 personnes. Et elle a dit bah, je reviens la semaine prochaine. On a vu des personnes habituées traverser une phase de dépression. Finir par plusieurs mois après reprendre pied. Et cette part d'humanité, moi j'ai le sentiment que ça se vit principalement ici.
Christophe est chômeur, pôle-empliste, comme il dit. Pas grave, ici on essaie de ne pas parler boulot. Solveig, ambassadrice de convivialité au Social Bar.
Ici on a un défi, c'est de se présenter en 30 secondes sans parler de son boulot. Parce qu'aujourd'hui tout le monde ne trouve pas forcément sa place dans le marché du travail. Et c'est pas pour autant que ces personnes-là ont rien à apporter. Il y a plein de manières d'être dans la société. Être un professionnel, c'en est une, mais c'est pas la seule.
Régulièrement, le Social Bar organise des After Work Less, l'un des nombreux concepts de soirée imaginés par Renaud Seligman, l'un des fondateurs.
Donc on a l'After Work Less, qui est le premier After Work au monde, fait pour les chômeurs, pour aussi un peu dédramatiser le chômage et leur dire bah, « c'est bon, vous avez le droit de faire la fête ». On fait des soirées pour les migrants, pour leur souhaiter la bienvenue et pour leur dire que Paris peut être une belle ville et une ville accueillante. On fait des soirées pour les personnes sourdes. L'idée, c'est de mixer vraiment les gens pour qu'à la fin, tout le monde puisse se rencontrer.
Entreprise sociale et solidaire, l'établissement reverse 15 à 50% de ses bénéfices à des associations, selon le vote de ses 250 actionnaires qui ici sont appelés des copatrons.
C'est des gens qui investissent à partir de 140 euros et qui ont des privilèges, comme passer derrière le bar de temps en temps, avoir son nom gravé sur le mur, avoir un verre marqué copatron, ce genre de choses qui font qu'ils se sentent vraiment chez eux et qui du coup font qu'ils sont des ambassadeurs de convivialité dans notre bar.
Et face au succès, le Social Bar parisien s'agrandira début 2020. 25 autres établissements ouvriront en France dans les 5 ans à venir.
Voilà, et le prochain, ce sera à Strasbourg. C'est sympa ce truc-là, non?
C'est formidable. Bah oui, tout ce qui peut permettre aux gens de se rassembler, de se réunir comme ça, sans autre enjeu que de découvrir l'autre, c'est... Mais le théâtre est aussi un bon outil pour ça. Hein. C'est pour ça que j'aime ce métier aussi. Quand on sort dans le hall du théâtre et que le théâtre, par bonheur, est équipé d'un restaurant, d'un bar, etc., on peut parler avec les gens. Il y a des rencontres qui se font comme ça, avec des lycéens. C'est vrai, moi j'aime ce métier aussi pour ça. Hein.
Est-ce qu'il y a un rêve caché, sinon, chez vous, Philippe Torreton, parce que vous êtes comédien, acteur, metteur en scène, écrivain, en un mot?
Un rêve caché?
Que vous nous dévoileriez ce soir.
J'aime...
Trop dur.
Non, non, c'est pas dur, mais il y en a plein. Moi, j'ai un rêve, ouais, ce serait de faire une traversée sur un voilier.
Voilà. Hein, bah écoutez, voilà, l'appel est lancé, hein. Voilà.
J'aimerais bien un jour.
Voilà. Faire ça. En attendant, c'est donc, on vous voit dans La Vie de Galilée, actuellement en tournée lundi et mardi à Châteauroux au théâtre Equinox, du 15 novembre au 1er décembre à Lyon au théâtre des Célestins. Les 17 et 18 décembre à Antibes, la Comédie de Saint-Étienne du 8 au 10 janvier, puis après ça va peut-être continuer aussi.
Ah mais ça, c'est pas que ça va peut-être, c'est que ça va continuer. On va faire une deuxième tournée à partir de septembre 2020 jusqu'à décembre 2020 et qui s'avère bien remplie parce que voilà, il y a beaucoup de villes qui veulent nous avoir et on est très contents.
Eh ben c'est parfait. Et comment il dit au fait Galilée ?
Qui ne connaît la vérité n'est qu'un imbécile. Mais qui, la connaissant, la nomme mensonge. Celui-là est un criminel.
Et voilà, tout est dit.
Ouais, tout
merci.
Est dit, ouais.
Merci mille fois, Philippe Torreton, d'être venu ce soir à France Inter. Dans quelques instants, le journal de 19h. Ensuite, le téléphone sonne consacré ce soir au Made in France avec cette question. Peut-on consommer français sans se ruiner ? 01 45 24 7000.